Pierre de Ronsard, une révolution poétique. À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard, France Mémoire, la mission des commémorations nationales, vous propose une série en 6 épisodes pour entrer dans l'œuvre de ce poète étonnant de la Renaissance. Cette série, fruit d'une collaboration avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature du XVIe siècle, est illustrée de poèmes interprétés par des étudiants de l'Université d'Angers. Vous écoutez l'épisode 5, Ronsard, poète engagé.
Madame, je serai ou de plomb ou de bois. Si moi que la nature a fait naître François, aux races à venir je ne comptais la peine et l'extrême malheur dont notre France est pleine. Je veux, malgré les ans, au monde publié d'une plume de fer sur un papier d'acier que ses propres enfants l'ont prise et dévêtue et jusque à la mort vilainement battue.
L'année 1562 est une année qui est décisive pour le royaume de France parce qu'elle marque le début des guerres de religion entre catholiques et protestants. Ronsard publie, cette même année, de manière anonyme, sous la forme de 2 petites plaquettes, les discours des misères de ce temps, puis la continuation des discours, qui sont 2 textes adressés à la reine Catherine. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré du 2e, la continuation des discours, texte dans lequel vous avez entendu que d'une plume de fer sur un papier d'acier, Ronsard offre une évocation vraiment magnifique, vibrante, de cette France déchirée par les guerres civiles. Ronsard a 38 ans.
Est-ce qu'on peut dire que Ronsard prend parti ?
Oui, Ronsard prend parti, mais il ne prend pas parti pour les catholiques ou pour les protestants. Il prend le parti du roi. Il défend une position qu'on appelle le loyalisme, c'est-à-dire tout simplement la loyauté au roi. Ronsard est pour l'unité du royaume, pour le respect de la tradition et pour la fidélité à la couronne de France. Donc ce n'est pas un catholique militant, si vous voulez. Son ami Joachim du Bellay avait écrit, lui, des pièces explicitement chrétiennes. Avant même le déclenchement des hostilités, du Bellay a d'ailleurs dédié au jeune François II des discours assez éloquents en alexandrin, dans lesquels il stigmatise vraiment la décadence des mœurs ecclésiastiques et ce qu'il appelle le monstre aveuglé de l'hérésie que seul pourrait dompter une réforme interne de l'Église catholique. Pour du Bellay, c'est aussi une façon de se défendre contre les critiques des réformés qui reprochent à sa poésie et à la poésie de la Pléiade de manière générale son caractère trop païen, trop licencieux à leurs yeux. Parmi les adversaires des poètes de la Pléiade, on compte notamment Jean Calvin, donc les ténors du parti protestant, Jean Calvin, Théodore de Bèze, qui est un proche collaborateur de Calvin, dont nous reparlerons un petit peu plus tard. Ronsard, lui, n'a pas pris part à la controverse entre catholiques et protestants avant les guerres de religion, comme a pu le faire Joachim du Bellay.
Et pourtant, sa position à la cour le place en première ligne, non ?
Alors en 1560, 2 ans avant les discours, la publication des discours des misères de ce temps, Ronsard a effectivement écrit une pièce de circonstance intitulée « L'élégie sur les troubles d'Amboise » qui sera republiée un petit peu plus tard sous le nom d'élégie à des hôtels. C'est le premier texte engagé de Ronsard.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit exactement, cette conjuration d'Amboise ?
Oui, Henri II est mort accidentellement en 1559. Son fils François II lui succède, il n'a que 15 ans, il est trop jeune pour régner, il laisse le gouvernement du royaume à ses cousins catholiques, les Guises. Certains des nobles protestants sont exaspérés par le comportement des Guises qui imposent, d'après eux, leur politique à ce jeune roi. Ils vont prendre les armes dans l'intention d'enlever le roi et dans l'idée de l'enlever. Pourquoi ? Pour le soustraire à l'influence des Guises et finalement obtenir leur procès. C'est ce que l'on a appelé la fameuse conjuration d'Amboise. Cette conjuration est mal préparée, elle va aboutir à un échec. Le secret était vanté, la Renaudie et ses compagnons qui préparaient l'attaque du château d'Amboise sont faits prisonniers. Et là, eh bien, la répression va être immédiate et exemplaire, et elle va laisser des traces tout à fait douloureuses dans la mémoire protestante. Et François de Guise, par effet retour, est nommé lieutenant général, c'est-à-dire chef des armées, et donc sort renforcé, finalement, de cette épreuve. C'est à ce moment-là que Guillaume des Hôtels, qui est un jurisconsulte proche des Guises, qui est aussi un ami de Ronsard, va publier une harangue au peuple français contre la rébellion. Et donc, à son tour, Ronsard félicite Guillaume des Hôtels en composant cette élégie que j'ai évoquée tout à l'heure, donc l'élégie sur les troubles d'Amboise. Il faut ajouter aussi à cela que le jeune roi, ou du moins son entourage, vient de confirmer Ronsard dans ses charges de féal conseiller et aumônier ordinaire du roi, et qu'il lui a été accordé le 20 septembre 1560, ce que l'on appelle un privilège personnel et général, pour imprimer ses œuvres. C'est une très grande faveur et c'est un avantage financier considérable qui va permettre à Ronsard d'éviter à l'avenir toute dépense. Les demandes de privilèges, vous savez, coûtaient très cher. Hein. Et donc, ce privilège le place vraiment en situation de force face aux libraires et aux éditeurs.
À la loyauté envers la couronne. Et donc, ce privilège oblige Ronsard.
Alors, est-ce qu'il a composé cette élégie pour montrer sa loyauté ? Il est possible que ça rentre en ligne de compte. Mais l'élégie à des hôtels n'est pas uniquement l'œuvre d'un courtisan. On sent dans ce texte que Ronsard est très choqué par ce qui s'est produit, cette tentative de conjuration. Et Ronsard ne fait aucune distinction à cette date entre des réformés modérés, réformés qui est l'autre nom des protestants à l'époque, hein, des réformés modérés et les mutins qui ont voulu fomenter cette conjuration. Alors même que plus tard, Ronsard, dans d'autres textes, soulignera cette distinction entre réformés modérés et réformés plus extrémistes. Aux yeux de nombreux chrétiens, dont Ronsard fait partie, hein, cette affaire d'Amboise compromet l'Église réformée dans son ensemble. Notamment parce que, aussi, il faut dire que les ténors protestants que sont Calvin et Bèze, eh bien, n'ont pas nettement, clairement condamné cette tentative d'enlèvement du roi. Dans l'élégie à des hôtels, l'engagement de Ronsard en faveur du camp catholique demeure assez modéré, assez discret. On peut dire que, comme Joachim du Bélair, Ronsard pense à cette date qu'une réforme interne de l'Église est indispensable. Mais il récuse toute violence, il incite à mener un combat purement doctrinal. Hein. Il dit « par livre l'assaillir, par livre lui répondre ». Il ne va pas aussi loin que des hôtels qui allaient jusqu'à dire que finalement les protestants avaient cherché à tuer le roi. Voilà. Et pour finir, cette élégie à ce moment-là vaut comme ce qu'on pourrait appeler une approbation de la politique ferme des Guises contre les conjurés.
Mais pourtant les Guises, ce sont bien des catholiques intransigeants, non ?
Alors, l'éloge des Guises peut étonner, effectivement, face à la position conciliatrice qui est celle de Ronsard, qui sera toujours celle de Ronsard. Hein. Mais elle est assez cohérente si on prend le soin de séparer le religieux du politique. La violence appelle la violence. Et Ronsard condamne toute conjuration de fait, du coup, contre le prince. Et il va conserver cette position, que l'on peut qualifier de pacifiste, hein, de non-violente, jusqu'au déclenchement des guerres de religion.
Et alors, sur le plan politique, quelle est la situation au cours de cette dernière année de paix ?
François II ne reste pas longtemps au pouvoir. Il meurt à la fin de l'année 1560. C'est Catherine de Médicis à ce moment-là qui est nommée régente, puisque Charles IX n'a que 10 ans. Quelques jours après, on est en décembre 1560, Ronsard assiste en tant qu'aumônier du roi à la réunion des États généraux d'Orléans. Très événement très important, événement qui est assez bien connu, dans lequel on sait que Michel de l'Hôpital, qui est le chancelier de Catherine de Médicis, eh bien, on sait que Michel de l'Hôpital ouvre cette assemblée avec un discours qui veut apaiser les conflits, vraiment dans un esprit de tolérance mutuelle, dans un esprit d'ouverture. Et c'est une harangue qu'a prononcée Michel de l'Hôpital qui est demeurée célèbre. Et Ronsard s'en souviendra dans sa réponse aux injures, qui est un texte qui appartient au discours des misères de ce temps. Et dans ce texte, Ronsard reprend, en l'infléchissant un petit peu, la harangue de Michel de l'Hôpital, d'une certaine manière en lui répondant. Je vous cite un passage. « Tu dis que ta religion est meilleure. Je défends la mienne. Lequel est plus raisonnable ? Que je suive ton opinion ou toi la mienne ? Ou qui en jugera, si ce n'est un saint concile ? Ôtons ces mots diaboliques, nom de part, faction et sédition, luthérien, huguenot, papiste. Ne changeons le nom de chrétien. » Dans ce contexte, le silence de Ronsard en 1561 est en plein accord avec les prescriptions royales, qui tentent de calmer le jeu, qui militent pour l'apaisement des tensions, dans la lignée de cette harangue prononcée par Michel de l'Hôpital.
Et sous l'apaisement, le feu couve.
Oui, le feu couve, et d'ailleurs comme un signe prémonitoire un petit peu des années sombres à venir, la peste sévit sévèrement à Paris à ce moment-là. Et le feu couve parce que, du côté catholique par exemple, se constitue le 6 avril 1561 ce qu'on appelle fréquemment dans les textes le triumvirat, hein, c'est-à-dire les trois grands seigneurs catholiques opposés au progrès de la réforme en France, François de Guise, Anne de Montmorency, le connétable, et le maréchal de Saint-André. Un petit peu plus tard dans l'année, vers la fin de l'été, un événement important va se dérouler, qui est le colloque de Poissy. C'est un conseil, c'est la réunion d'un certain nombre de personnes, et ce conseil vise à chercher un compromis doctrinal, et participe à ce colloque Théodore de Bèze, donc l'un des chefs des factions protestantes. Ce colloque, c'est donc le colloque de Poissy qui se déroule en d'août à octobre 1561, et Ronsard y assiste. Et vous vous en doutez, malheureusement, ce colloque est un échec qui va avoir de conséquences, des conséquences importantes théologiquement et politiquement. L'une des premières conséquences de cela, de cet échec, c'est bien sûr la division religieuse qui va se confirmer, hein, par des prises de position plus formelles, plus nettes, notamment de la part des réformés. Et puis sur le plan politique, il ne reste que deux issues. Hein. Soit c'est la guerre, soit il faut adopter une forme de tolérance civile. Le pouvoir, c'est-à-dire Catherine de Médicis avec Michel de l'Hôpital, choisira d'imposer la tolérance civile. Et quelques mois plus tard, le 17 janvier 1562, un édit de tolérance qu'on appelle l'édit de janvier, qui est bien connu, hein, officialise cette division. Et là, vraiment, c'est un fait majeur. Hein. Pour la première fois en Europe, la pratique d'une religion dissidente est officiellement autorisée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la tolérance provisoire qui avait été préconisée jusque-là par certains esprits iréniques, dans l'idée qu'à un moment ou à un autre allait intervenir un concile qui allait régler les différends théologiques et qu'on allait tous repartir d'une même âme vers la même foi, eh bien, cette tolérance provisoire est écartée par le législateur qui admet désormais une tolérance de principe. Et cette tolérance de principe est fondée sur la constatation faite par Michel de l'Hôpital que, je cite, « l'excommunié ne cesse pas d'être un citoyen ». Donc, vous voyez que la sanction légale qui est accordée ainsi à la division ecclésiale tend à séparer l'Église de l'État. Hein, l'excommunié d'un côté reste un citoyen de l'autre. Et indirectement, cela tend à confirmer l'impression que le schisme, eh bien désormais, n'est pas provisoire, mais bien permanent.
Et c'est cette rupture qui va amener Ronsard à adopter une position plus tranchée.
Il faut imaginer l'onde de choc que produit ce schisme protestant dans la société de l'époque. Hein. Son affirmation officielle va choquer énormément les catholiques, beaucoup de catholiques, et va s'accompagner d'une virulence croissante dans la polémique. Le législateur s'efforce de refouler cette marée d'invectives qui surgit de toutes parts. Et une série d'édits vont être publiés par le législateur pour proscrire l'emploi d'insultes, notamment d'insultes motivées pour raison de religion. Tout clair, ton suré qu'il soit, Ronsard, on le sait, n'a jamais fait preuve d'une foi très vive, ni d'un attachement vraiment spécifiquement au dogme catholique. Mais la première guerre de religion va le conduire logiquement à un engagement plus explicite. Et par ailleurs, le déclenchement des hostilités va, de fait, lui rendre sa fureur poétique. Vous vous souvenez que nous avions évoqué, dans un épisode précédent, cette période de tarissement de l'inspiration du poète.
Et est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu dans quelles circonstances la situation va-t-elle s'embraser ?
Alors, la situation s'embrase très précisément le 1er mars 1562. A lieu, à cette date, le massacre de Vassy. Le massacre de Vassy, c'est le massacre de 23 réformés, peut-être plus, qui célébraient leur culte dans une petite ville du nom de Vassy et qui sont assassinés par les gens de François de Guise. L'édit de janvier de 1562, dont j'ai parlé tout à l'heure, autorisait le culte protestant, mais uniquement en dehors des villes. Et donc c'est le prétexte de cette tuerie. Le prétexte, c'est qu'ils célébraient leur culte à l'intérieur des murs de cette ville. Cet événement tragique, ce massacre de Vassy, est vraiment, date le début d'une confrontation armée qui va s'étendre à tout le royaume et que l'on appellera la première guerre civile. Les guerres civiles, de manière générale, dureront 36 ans jusqu'à l'édit de Nantes en 1598, mais ça, évidemment, Ronsard ne le sait pas encore. Alors, après ce massacre, Théodore de Bèze réclame en vain à Catherine de Médicis un châtiment pour les assassins. Louis de Condé appelle les protestants à prendre les armes, Coligny le rejoint le 28 mars et il s'empare d'Orléans le 2 avril pour faire de cette ville un centre de recrutement proche de Paris et donc menaçant pour Paris. Ils prennent ensuite Angers, Tours, Blois, ils prennent Rouen en avril et en mai. Le 8 avril, par ailleurs, Théodore de Bèze et les princes protestants publient une déclaration commune. Leur objectif est clair. Ils disent qu'ils veulent délivrer le roi captif et détenu en compagnie de sa mère et de ses frères. Enfin, un autre événement décisif va pousser Ronsard à s'engager contre les Huguenots. Autre terme pour les désigner, hein. Les réformés, les protestants, les Huguenots. Cet événement, c'est le traité de Hampton Court qui est signé le 20 septembre entre Élisabeth d'Angleterre et les protestants français Condé et Coligny qui vont vendre Le Havre, la ville du Havre, à Élisabeth pour financer la guerre.
Et donc là, pour Ronsard, c'est la patrie qui est en danger.
Et oui, hein, quand Ronsard s'engage du côté du parti catholique, vous avez compris que ce n'était pas pour des raisons théologiques. Hein. Sa motivation est d'abord politique, elle est patriotique, et du reste, ce combat de Ronsard s'inscrit en droite ligne de ses premiers travaux pour la défense et illustration de la langue française. En l'espace d'une année, cette année de 1562, Ronsard va alors rédiger, sous le coup de l'émotion, 4 libelles. C'est comme ça que l'on désigne ces textes courts, polémiques, offensifs. 4 libelles, les discours des misères de ce temps, la continuation des discours dont j'ai parlé tout à l'heure et qui était adressé à la reine Catherine, puis un texte qui s'appelle « La remontrance au peuple de France », vraisemblablement composé pendant le siège de Paris par Louis de Condé, et enfin un 4e texte appelé « La réponse aux injures et calomnies de je ne sais quels prédicants et ministres de Genève », titre savoureux s'il en est. Je vous propose d'écouter justement le début de cette réponse aux injures et calomnies, composée juste après l'assassinat du duc François de Guise par Paul Trot de Méré, le 24 février 1563, au moment du siège d'Orléans.
Misérable moqueur, qui n'avait point de voix, muet comme un poisson, il n'y a pas de moi. Et maintenant, enflé par la mort d'un seul homme, tu médis de mon nom, que la France renomme, aboyant ma vertu et faisant du bragard. Pour te mettre en honneur, tu te prends à Ronsard. Or, je te laisse là, car je ne veux descendre en propos contre toi, ni moins les armes prendre. Tu es faible pour moi. Si je veux escrimer du bâton qui me fait par l'Europe estimer. Mais si ce grand guerrier et grand soldat de Bèze se présente au combat, mon cœur sautera d'aise. D'un si fort ennemi, je serai glorieux. Et Dieu sait qui des deux sera victorieux. Hardi, je planterai mes pas dessus l'arène. Je raidirai les bras, soufflant à grosse haleine, et pressant et tournant, suant et haletant, du matin jusqu'au soir, je lirai combattant, sans délier des mains, ni ceste, ni couret, que tous deux ne soyons enivrés de nos plaies. J'ai de quoi me défendre, et de quoi l'irriter, s'il lui plaît, sur l'arène, en armes se planter. Je sais que peut la langue et latine et grégeoise, je suis maître joueur de la muse françoise. Vienne quand il voudra, il me verra sans peur. Dur comme un fer tranchant qui s'affine au labeur, vif, ardent et gaillard, sans trembler sous l'audace d'un venteur qui par outre au combat me menace. C'est lui seul que je veux au champ escarmoucher.
Magnifique, magnifique morceau de bravoure dans lequel Ronsard, vous l'avez entendu, reprend un vocabulaire typiquement chevaleresque qu'il applique à une joute métaphorique et poétique qu'il aimerait pouvoir mener contre, je cite, ce grand guerrier et grand soldat de Bèze. Ronsard ne veut pas se mesurer à des seconds couteaux, mais il accepterait le combat contre le chef protestant qu'est Théodore de Bèze.
Alors éclairez-nous, à qui Ronsard s'adresse-t-il au tout début de ce poème ?
Ce pamphlet, intitulé « Réponse aux injures et calomnies de je ne sais quels prédicants et ministres de Genève », donc ces anonymes, effectivement, auxquels s'adresse ce pamphlet, sont des prédicants, c'est-à-dire des pasteurs protestants. Et dans le texte que vous avez entendu au premier vers, un pasteur protestant, précisément ici, est désigné comme un misérable moqueur. Hein. Ronsard exprime un mépris souverain à l'égard de son destinataire. Il lui refuse son nom, il l'anonymise. Il n'existe pas aux yeux de Ronsard. Il ne peut pas, lui, le prince des poètes, s'abaisser, à poétiser, même à polémiquer poétiquement contre ce prédicant. Seul Théodore de Bèze est un ennemi valable, il le nomme, et il le montre vraiment digne. Il montre beaucoup d'admiration hein, là, à Théodore de Bèze. Il montre qu'il est digne de jouter avec Ronsard, ce qui n'est pas rien, puisque nous avons souvent parlé de l'arrogance de Ronsard dans cette série de podcasts. Ici, voilà quelqu'un, et qui est pourtant un ennemi, hein, à qui Ronsard fait une place de poète véritable. Il faut rappeler que les deux hommes se sont connus, pas plus de 5 ans d'écart, ils se sont estimés, Ronsard a estimé et admiré les qualités de poète de Théodore de Bèze, qui fut, avant sa conversion au protestantisme, un étudiant joyeux et aussi un grand poète d'amour.
Et est-ce qu'on a une trace des injures auxquelles Ronsard répond dans ce texte ?
Oui, on en a une trace parce qu'on a conservé les textes des protestants qui ont été écrits et publiés contre Ronsard. Il s'agit de 3 textes rassemblés sous le titre « Réponse aux calomnies contenues au discours » et « Suite du discours sur les misères de ce temps » fait par Messire Ronsard, jadis poète et maintenant prêtre. Ces 3 poèmes ont été composés par 2 polémistes, Zamariel, le premier, dont le nom est en réalité Antoine de la Roche-Chandieu, qui signe le premier texte, et Mondieu, dont le vrai nom est Bernard de Montméja, qui signe les 2 suivants. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la publication des Odes, en 1550, hein, donc bien avant, le paganisme affiché est tellement ostentatoire de la poésie ronsardienne, et de la Pléiade d'ailleurs en général, hein, mais particulièrement ronsardienne, avait déjà suscité des réactions très vives du côté des protestants. Par exemple, dans la préface de sa tragédie biblique, Théodore de Bèze, qui avait signé cette tragédie, hein, dont le titre est « L'Abraham sacrifiant », qui date de 1550, donc la même date que les Odes de Ronsard, eh bien déjà dans cette préface, Théodore de Bèze attaquait Ronsard et du Bellay en ces termes. « À la vérité, il leur serait mieux séant de chanter un cantique à Dieu que de pétrarquiser un sonnet et faire l'amoureux transi, digne d'avoir un chaperon à sonnette ou de contrefaire ses fureurs poétiques à l'antique pour distiller la gloire de ce monde. » Et immortaliser cette ici ou cette là. Hein, donc vous entendez que Théodore de Bèze, qui pourtant avait été poète d'amour autrefois, hein, et poète pétrarchiste, eh bien ici, depuis sa conversion, refuse l'idée qu'une si belle plume, qui est la plume de Ronsard, eh bien soit au service non pas de Dieu, mais de l'amour. Donc dans une large mesure, on peut dire que la rédaction des discours des misères de ce temps de Ronsard constitue une réponse personnelle du prince des poètes à ses critiques, en plus d'être une prise de parti dans le débat politique.
En fin de compte, la réponse aux injures, c'est surtout un règlement de compte personnel.
Oui, en effet. Les discours précédents hein, avaient pour sujet la situation générale du royaume, les intérêts généraux de la France, de l'Église. Ils contenaient des conseils aux catholiques, des blâmes aux protestants. La réponse aux injures, au contraire, va mettre l'accent sur la personnalité même de l'auteur. C'est finalement presque une apologie ripostant à des ennemis personnels sur des questions personnelles. C'est aussi une polémique de poète, poétique, Ronsard dans ce texte. On a le sentiment qu'il fait la roue s'il était un paon, vous voyez ? Il fait montre d'une virtuosité poétique qui, de manière évidente, est là pour réduire à néant aussi bien les protestants que leur velléité poétique. Donc, tout en s'en distinguant, la réponse aux injures s'inscrit dans le prolongement des libelles précédents comme une sorte de série d'épisodes que le public va lire et suivre avec beaucoup d'avidité. Ces 4 pamphlets de Ronsard ont connu, mais dès le départ, un succès immense. J'en veux pour preuve qu'ils n'ont fait l'objet de pas moins de 41 éditions entre 1562 et 1572 en 10 ans. C'est exceptionnel, c'est énorme. Et puis, ils sont publiés en recueil, ensemble, sous le nom de Ronsard, à partir de 1567, hein, parce qu'ils avaient été publiés anonymement au début. Rien que pour la réponse aux injures, ce fameux dernier texte, on compte 5 réimpressions au cours de l'année, même de son écriture. On sait, par exemple, que par une lettre de l'ambassadeur d'Espagne en France, hein, qui est datée de novembre 1563, que le roi lui-même se fait lire les pamphlets protestants contre Ronsard, donc c'est dire si cette polémique suscite la curiosité du public et de toute la cour.
Et alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès ?
Eh bien, c'est aussi probablement un succès de genre. Hein, en 1559, Du Bellay avait en quelque sorte un peu montré la voie. Il avait écrit le discours au roi contenant une brève et salutaire instruction pour bien et heureusement régner, une sorte d'institution du prince. Puis, l'ample discours au roi sur le fait des 4 états du royaume de France. Avec les guerres et sous la plume de Ronsard, eh bien, cette veine d'inspiration concomitamment religieuse et patriotique devient vraiment un instrument de combat au service du monarque. Ces textes sont des poèmes longs, à rimes plates, en décasyllabes ou en alexandrins, qui sont des vers prosaïques, c'est-à-dire proches de la prose, faciles à lire. Et de plus, ils interpellent des publics très divers, les princes, la reine, mais aussi les prélats, les juges, les nobles protestants, les nobles catholiques, le peuple lui-même, hein, qui est secoué par Ronsard, les poètes, voilà. Donc, si l'on se souvient par exemple de la manière dont Marot s'adressait aux grands dans cette attitude d'amuseur humble pour appeler leur attention sur tel ou tel malheur, Ronsard, ici, très conscient de sa dignité de poète, je dirais, exerce vraiment dans ses textes sa dimension de prophète. Et c'est peut-être ça aussi qui explique le succès de ses textes. Chacun est mis face à ses responsabilités, et puis aussi, derrière cette série d'apostrophes à tous ces auditoires que je viens d'énumérer, Ronsard s'adresse politiquement aux indécis. Nous sommes au premier temps de la réforme, il ne faut pas oublier que le clivage entre protestants et catholiques n'est pas aussi net qu'il nous le semble, nous, aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas bien quoi penser de ces querelles théologiques qui, pour certains, les dépassent ou ne les intéressent pas. Or, Ronsard s'efforce un peu de ménager, en quelque sorte, les uns et les autres, en particulier dans son premier discours. Pour lui, les protestants pêchent par orgueil, ils ont mis le feu au pays, ils ont mis ce pays à feu et à sang. Bon, alors lui, il décide de répondre à la menace par la menace, et tout a en même temps, en faisant miroiter, l'espoir d'une conciliation peut-être encore possible. Le but poursuivi par Ronsard, c'est tout de même le retour à la paix civile. Et quel qu'en soit le prix, que ce soit par un compromis avec les mutins ou que ce soit peut-être par une répression.
Et alors, quel est le point commun que l'on pourrait faire entre cette littérature polémique avec le Ronsard des Odes ou des Amours qui semble comme ça assez différent ?
Oui, Ronsard, effectivement, on peut se poser cette question. Hein. Ronsard va cultiver son talent dans la polémique, hein, dans la poésie polémique. Dans un style à la fois hyperbolique, mais aussi très pathétique. Il utilise une abondance de figures, d'images. C'est vraiment une démonstration de poésie qui vient doubler le combat qui a lieu réellement dans la vie. Je vous donne quelques exemples. Vous avez entendu tout à l'heure ce texte magnifique, cette projection épique d'une joute verbale désirée avec Théodore de Bèze. C'est vraiment, c'est à la fois féroce, c'est plein d'une noble indignation. Ronsard recourt aussi à la dérision, à la caricature, quand il a besoin de soutenir tous ces effets de persuasion qui sous-tendent ce type de texte. Un autre exemple, dans un passage de la continuation des discours, Ronsard s'adresse à Théodore de Bèze, là encore, avec des accents extrêmement pathétiques. Je ne vous en lis que quelques vers. Ne prêche plus en France une évangile armée, un Christ en pistolet tout noirci de fumée, qui comme un Mahomet va portant en la main un large coutelas rouge de sang humain. Cela déplaît à Dieu, cela déplaît au prince. C'est d'une force. Voilà. On trouve aussi dans les discours cet humour de Ronsard qu'on a voulu souligner depuis l'épisode 1 de nos podcasts, qui est bien présent. Un exemple parmi tant dans ces textes que je vais puiser dans la réponse aux injures et calomnies, ce texte se termine par une ordonnance médicale comique que Ronsard envoie à ses prédicants protestants. en leur disant « Allez faire une purgation, une scarification, afin de vous faire évaporer l'humeur noire et mélancolique, je cite, qui sans relâche vous tourmente et vous gâte le cerveau. » Etc. Voilà. Donc ces textes sont aussi emprunts de la poésie, sont aussi une représentation de la facilité avec laquelle Ronsard peut explorer toutes les verves, tous les thèmes. Ce sont des textes tout aussi magnifiques que Les Amours qu'il a publié plus jeune. Voilà, finalement, la situation de la France confrontée aux guerres de religion semble avoir redonné à Ronsard ce sang chaud, ce fourore, cette verve jaillissante de sa jeunesse. Et de fait, ces textes sont éblouissants.
Alors, on entend des réponses, puis des réponses aux réponses. Comment la polémique va se terminer ?
Écoutez, c'est une ordonnance royale qui y mettra fin, parce que comme vous l'avez senti, sinon les réponses auraient été indéfiniment publiées, probablement. Et c'est donc une ordonnance royale de septembre 1563 qui interdit les libelles pour éviter, évidemment, que les choses ne s'enflamment. Et d'ailleurs, Ronsard va attribuer explicitement au commandement des princes son retrait de la joute verbale. Je le cite. Sans le commandement des plus grands qui ont expressément défendu les libelles, c'est-à-dire interdit de publier des textes de polémique, je les eusse vivement grattés où ils leur démangent. C'est-à-dire, Ronsard dit, j'aurais gratouillé mes ennemis, j'aurais continué de les, de les embêter là où ça les démange. Hein. Mais dorénavant, je me tairai pour obéir à ceux qui ont puissance sur ma main et sur ma volonté. On reconnaît là le poète des princes, ils ont puissance sur sa main.
Donc en fait, c'est une polémique qui dépasse le contexte politique et religieux de l'époque.
Et oui, donc c'est une polémique qui aura finalement cette triple qualité quelque part, d'avoir été immergée dans la politique, dans un combat religieux, mais c'est aussi une querelle de poètes. C'est une querelle de poètes parce qu'elle possède aussi des enjeux littéraires et culturels très forts. C'est un prétexte, au fond, cette polémique politico-religieuse pour Ronsard, qui lui permet de manifester sa supériorité polémique et de défier avec toute la superbe qu'on lui connaît ses adversaires. Ces protestants, rappelez-vous qu'ils jettent l'anathème sur l'Antiquité parce qu'elle est païenne, qu'ils jettent l'anathème sur le pétrarchisme et tout ce que Ronsard a pratiqué en termes de poésie, en termes de culture. Donc, il va profiter de cette polémique pour répondre en revendiquant plus fortement que jamais ce syncrétisme qui est si typique de sa poésie. On le voit magnifiquement dans des prosopopées comme celle, par exemple, qui est magnifique du monstre Opinion, où la France, quand il fait cette prosopopée de la France meurtrie et pillée qui s'adresse au peuple, c'est absolument magnifique. Et de cette manière-là, Ronsard enrichit la mythologie, il crée de nouveaux mythes, il enrichit la mythologie de nouveaux mythes qui sont proprement français et qui défient le temps présent. Et la portée de ces mythes s'étend bien au-delà de l'actualité des guerres de religion. La leçon est vraiment à méditer pour les générations futures, comme dit Ronsard, les races à venir.
Et finissons peut-être sur cette leçon.
Cette leçon aux races à venir, oui, c'est-à-dire qu'il nous donne à nous-mêmes aujourd'hui et maintenant. Je crois qu'on peut la retrouver dans un extrait merveilleux que vous allez entendre du texte intitulé « La remontrance au peuple de France ». C'est un texte, c'est un extrait qui parle de l'impossibilité de résoudre les conflits en matière de religion et qui évoque la réversibilité des reproches que se font les religions entre elles. Ronsard rappelle dans ce passage les conflits qui opposent au XVIe siècle et finalement continuent d'opposer aujourd'hui les trois grandes religions monothéistes. Vous allez l'entendre. Il prend une position qui est très audacieuse à l'époque en ne présentant pas le christianisme comme supérieur au judaïsme ou à l'islam. Il place Dieu finalement au-dessus des partis. Et vous allez voir que dans une série d'adresses assez familières à ses adversaires, Ronsard va décliner, reformuler à plaisir l'idée d'un relativisme religieux. Les croyances religieuses et les connaissances métaphysiques sont de l'ordre d'une révélation. L'homme ne peut pas y avoir accès par sa propre raison, et donc de fait, il doit s'en remettre, pour tout ce qui relève de la foi finalement, à une tradition autorisée. Et donc le « tu » de l'ennemi, de celui qui a une autre religion, et le « je » sont strictement sur le même plan. C'est tout à fait impressionnant. Et ce « toi et moi » qui pense différemment, Ronsard a l'air de dire ben, « toi et moi, nous pensons différemment, mais nous pensons tous les deux. Ta pensée vaut la mienne. » Et le prolongement logique, c'est « ta religion vaut la mienne. » Mais attention, Rien ne justifie une guerre de religion, une guerre fratricide, une patrie désunie, et il faut trouver une raison de sortir de ce conflit. Et pour Ronsard, cette raison, c'est la tradition, et c'est aussi l'union, c'est-à-dire la paix sociale.
Tu dis qu'on trouve assez à deviser de moi ? Touche-la, prédicant. Aussi fait-on de toi. Mais telle devise ne peut ni profiter, ni nuire. Le soleil pour cela ne laisse pas de luire sur ta tête et la mienne. Et comme auparavant, nous regardons le ciel et respirons le vent. Nous ne sommes méchants pour autant que les hommes parsiaux comme toi disent que nous le sommes. Mais bien nous sommes tels quand le remords caché de dans notre estomac juge notre péché. Et pour ceux du commun, la vaine médisance ne nous peut offenser. C'est notre conscience.
Ainsi, le juif accuse un turc mahumatin et le turc, le chrétien.
Mais Dieu juge certain, connaît le cœur de tous.
Comment un calviniste pourrait-il bien juger des actes d'un papiste quand ils sont ennemis, frères, pour abréger? Le juge partial ne saurait bien juger. Tu m'estimes méchant, t'es méchant, je t'estime. Je retourne sur toi le même fait du crime. Tu penses que c'est moi? Je pense que c'est toi. Et qui fait ce discord? Notre diverse foi. Tu penses dire vrai? Je pense aussi le dire. Et lequel est trompé? Certes, tu as le pire, car tu crois seulement en ton opinion. Moi, en la catholique et publique union.
Vous venez d'écouter le 5e épisode de la série Pierre de Ronsard, une révolution poétique. Un podcast de France Mémoire avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature de la Renaissance. Lecture des poèmes par
Auban Martin, Naya Ibrahim
et
Clara Rio.
Musique de l'ensemble Douce Mémoire. Conception Caroline Garde-Le Breton, Luce Albert, Marie Catelin. Réalisation Erwan Guillot.